Quatrième objection, faite par M. Arnaud, docteur en théologie. Lettre du Dicieux au révérend père Mersenne. Mon révérend père, je mets au rang des signalés bienfaits la communication qui m'a été faite par votre moyen des méditations de M. Descartes. Mais comme vous en saviez le prix, aussi me l'avez-vous vendu fort chèrement, puisque vous n'avez point voulu me faire participant de cet excellent ouvrage, que je ne me sois premièrement obligé de vous en dire mon sentiment. C'est une condition à laquelle je ne me serais point engagé, si le désir de connaître les belles choses n'était en moi fort violent, et contre laquelle je réclamerais volontiers, si je pensais pouvoir obtenir de vous aussi facilement une exception pour m'être laissé emporter par la volupté, comme autrefois le prêteur en accordait à ceux à qui la crainte ou la violence avaient arraché le consentement. Car que voulez-vous de moi? Mon jugement touchant l'auteur? Nullement. Il y a longtemps que vous savez en quelle estime j'ai sa personne et le cas que je fais de son esprit et de sa doctrine. Vous n'ignorez pas aussi les fâcheuses affaires qui me tiennent à présent occupé, et si vous avez meilleure opinion de moi que je ne mérite, il ne s'ensuit pas que je n'ai point connaissance de mon peu de capacité. Cependant, ce que vous voulez soumettre à mon examen demande une très haute suffisance, avec beaucoup de tranquillité et de loisir, afin que l'esprit, étant dégagé de l'embarras des affaires du monde, ne pense qu'à soi-même. Ce que vous jugez bien ne se pouvoir faire sans une méditation très profonde et une très grande recollection d'esprit. J'obéirai, néanmoins, puisque vous le voulez, mais à condition que vous serez mon garant et que vous répondrez de toutes mes fautes. Or, quoique la philosophie se puisse vanter d'avoir seule enfanté cet ouvrage, néanmoins, parce que notre auteur, en cela très modeste, se vient lui-même présenter au tribunal de la théologie, je jouerai ici deux personnages. Dans le premier, paraissant en philosophe, je représenterai les principales difficultés que je jugerais pouvoir être proposées par ceux de cette profession, touchant les deux questions de la nature de l'esprit humain et de l'existence de Dieu. Et après cela, prenant l'habit d'un théologien, je mettrai en avant les scrupules qu'un homme de cette robe pourrait rencontrer en tout cet ouvrage. De la nature de l'esprit humain. La première chose que je trouve ici digne de remarque est de voir que M. Descartes établisse pour fondement et premier principe de toute sa philosophie ce qu'avant lui saint Augustin, homme de très grand esprit et d'une singulière doctrine, non seulement en matière de théologie, mais aussi en ce qui concerne l'humaine philosophie, avait pris pour la base et le soutien de la sienne. Car dans le livre second du Libre Arbitre, chapitre 3, Alipius disputant avec Évodius et voulant prouver qu'il y a un Dieu, « Premièrement, dit-il, je vous demande, afin que nous commencions par les choses les plus manifestes, savoir si vous êtes, ou si peut-être vous ne craignez point de vous méprendre en répondant à ma demande, combien qu'à vrai dire, si vous n'étiez point, vous ne pourriez jamais être trompé. » Auxquelles paroles reviennent celles-ci de notre auteur? Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé qui met toute son industrie à me tromper toujours. Il est donc sans doute que je suis s'il me trompe. Mais poursuivons, et afin de ne nous point éloigner de notre sujet, voyons comment de ce principe on peut conclure que notre esprit est distinct et séparé du corps. Je puis douter si j'ai un corps, voire même, je puis douter s'il y a aucun corps au monde, et néanmoins, je ne puis pas douter que je ne sois ou que je n'existe, tandis que je doute ou que je pense. Donc, moi qui doute et qui pense, je ne suis point un corps. Autrement, en doutant du corps, je douterais de moi-même. Voire même, encore que je soutienne opiniâtrement qu'il n'y a aucun corps au monde, cette vérité néanmoins subsiste toujours. Je suis quelque chose, et partant, je ne suis point un corps. Certes, cela est subtil, mais quelqu'un pourra dire, ce que même notre auteur s'objecte, de ce que je doute ou même de ce que je nie qu'il n'y ait aucun corps, il ne s'ensuit pas pour cela qu'il n'y en ait point. Mais aussi peut-il arriver que ces choses mêmes que je suppose n'être point, parce qu'elles me sont inconnues, ne sont point en effet différentes de moi que je connais. Je n'en sais rien, dit-il, je ne dispute pas maintenant de cela, je ne puis donner mon jugement que des choses qui me sont connues. J'ai reconnu que j'étais, et je cherche quel je suis, moi que j'ai reconnu être. Or, il est très certain que cette notion et connaissance de moi-même, ainsi précisément prise, ne dépend point des choses dont l'existence ne m'est pas encore connue. Mais puisqu'il confesse lui-même que, par l'argument qu'il a proposé dans son traité de la méthode, page 34, la chose en est venue seulement à ce point d'exclure tout ce qui est corporel de la nature de son esprit, non pas eu égard à la vérité de la chose, mais seulement suivant l'ordre de sa pensée et de son raisonnement, en telle sorte que son sens était qu'il ne connaissait rien qu'il sût appartenir à son essence, sinon qu'il était une chose qui pense, il est évident par cette réponse que la dispute en est encore au même terme, et partant, que la question dont il nous promet la solution demeure encore en son entier. À savoir, comment, de ce qu'il connaît rien autre chose qui appartienne à son essence, sinon qu'il est une chose qui pense, il s'ensuit qu'il n'y a aussi rien autre chose qui en effet lui appartienne. Ce que toutefois je n'ai pu découvrir dans toute l'étendue de la seconde méditation, tant j'ai l'esprit pesant et grossier. Mais, autant que je le puis conjecturer, il en vient à la preuve dans la sixième, parce qu'il a cru qu'elle dépendait de la connaissance claire et distincte de Dieu, qu'il ne s'était pas encore acquise dans la seconde méditation. Voici donc comment il prouve et décide cette difficulté. « Parce que, dit-il, je sais que toutes les choses que je conçois clairement et distinctement peuvent être produites par Dieu telles que je les conçois. Il suffit que je puisse concevoir clairement et distinctement une chose sans une autre, pour être certain que l'une est distincte ou différente de l'autre, parce qu'elles peuvent être posées séparément, au moins par la toute-puissance de Dieu. Et il n'importe pas par quelle puissance cette séparation se fasse pour m'obliger à les juger différentes. Donc, parce que, d'un côté, j'ai une claire et distincte idée de moi-même, en tant que je suis seulement une chose qui pense et non étendue, et que, d'un autre, j'ai une idée distincte du corps, en tant qu'il est seulement une chose étendue et qui ne pense point, il est certain que ce moi, c'est-à-dire mon âme, par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement et véritablement distincte de mon corps, et qu'elle peut être ou exister sans lui, en sorte qu'encore qu'il ne fût point, elle ne laisserait pas d'être tout ce qu'elle est. Il faut ici s'arrêter un peu, car il me semble que dans ce peu de paroles consiste tout le nœud de la difficulté. Et premièrement, afin que la majeure de cet argument soit vraie, cela ne se doit pas entendre de toutes sortes de connaissances, ni même de toute celle qui est claire et distincte, mais seulement de celle qui est pleine et entière, c'est-à-dire qui comprend tout ce qui peut être connu de la chose. Car M. Descartes confesse lui-même, dans ses réponses aux premières objections, qu'il n'est pas besoin d'une distinction réelle, mais que la formelle suffit, afin qu'une chose soit conçue distinctement et séparément d'une autre, par une abstraction de l'esprit qui ne conçoit la chose qu'imparfaitement et en partie. D'où vient, qu'au même lieu il ajoute, « Mais je conçois pleinement ce que c'est que le corps, c'est-à-dire je conçois le corps comme une chose complète, en pensant seulement que c'est une chose étendue, figurée, mobile, etc., encore que je nie de lui toutes les choses qui appartiennent à la nature de l'esprit. Et d'autre part, je conçois que l'esprit est une chose complète, qui doute, qui entend, qui veut, etc., encore que je n'accorde point qu'il y ait en lui aucune des choses qui sont contenues en l'idée du corps. Donc, il y a une distinction réelle entre le corps et l'esprit. Mais si quelqu'un vient à révoquer en doute cette mineure, et qu'il soutienne que l'idée que vous avez de vous-même n'est pas entière, mais seulement imparfaite, lorsque vous vous concevez, c'est-à-dire votre esprit, comme une chose qui pense et qui n'est point étendue, et pareillement, lorsque vous vous concevez, c'est-à-dire votre corps, comme une chose étendue et qui ne pense point, il faut voir comment cela a été prouvé dans ce que vous avez dit auparavant, car je ne pense pas que ce soit une chose si claire qu'on la doive prendre pour un principe indémontrable et qui n'ait pas besoin de preuves. Et quant à sa première partie, à savoir que vous concevez pleinement ce que c'est que le corps en pensant seulement que c'est une chose étendue, figurée, mobile, etc., encore que vous niez de lui toutes les choses qui appartiennent à la nature de l'esprit, elle est de peu d'importance, car celui qui maintiendrait que notre esprit est corporel n'estimerait pas pour cela que tout corps fût esprit, et ainsi, le corps serait à l'esprit comme le genre est à l'espèce. Mais le genre peut être entendu sans l'espèce, encore que l'on ait de lui tout ce qui est propre et particulier à l'espèce. D'où vient cet axiome de logique que, l'espèce étant niée, le genre n'est pas nié, ou bien, là où est le genre, il n'est pas nécessaire que l'espèce soit. Ainsi, je puis concevoir la figure sans concevoir aucune des propriétés qui sont particulières au cercle. Il reste donc encore à prouver que l'esprit peut être, pleinement et entièrement, entendu sans le corps. Or, pour prouver cette proposition, je n'ai point, ce me semble, trouvé de plus propre argument dans tout cet ouvrage que celui que j'ai allégué au commencement. À savoir, je puis nier qu'il y ait aucun corps au monde, aucune chose étendue, et néanmoins je suis assuré que je suis, tandis que je le nie ou que je pense. Je suis donc une chose qui pense, et non point un corps, et le corps n'appartient point à la connaissance que j'ai de moi-même. Mais je vois que de là, il résulte seulement que je puis acquérir quelque connaissance de moi-même sans la connaissance du corps, mais que cette connaissance soit complète et entière, en telle sorte que je sois assuré que je ne me trompe point lorsque j'exclus le corps de mon essence, cela ne m'est pas encore entièrement manifeste. Par exemple, posons que quelqu'un sache que l'angle du demi-cercle est droit, et partant, que le triangle fait de cet angle et du diamètre du cercle est rectangle. Mais qu'il doute et ne sache pas encore certainement, voire même qu'ayant été déçu par quelque sophisme, il nie que le carré de la base d'un triangle rectangle soit égal au carré des côtés, il semble que, par la même raison que propose M. Descartes, ils doivent se confirmer dans son erreur et fausse opinion. Car, dira-t-il, je connais clairement et distinctement que ce triangle est rectangle. Je doute néanmoins que le carré de sa base soit égal au carré des côtés, donc il n'est pas de l'essence de ce triangle que le carré de sa base soit égal au carré des côtés. En après, encore que je nie que le carré de sa base soit égal au carré des côtés, je suis néanmoins assuré qu'il est rectangle, et il me demeure en l'esprit une claire et distincte connaissance qu'un des angles de ce triangle est droit, ce qu'étant, Dieu même ne saurait faire qu'il ne soit pas rectangle. Et partant, ce dont je doute, et que je puis même nier, la même idée me demeurant en l'esprit, n'appartient point à son essence. Davantage, parce que je sais que toutes les choses que je conçois clairement et distinctement peuvent être produites par Dieu telles que je les conçois, c'est assez que je puisse concevoir clairement et distinctement une chose sans une autre, pour être certain que l'une est différente de l'autre, parce que Dieu les peut séparer. Mais je conçois clairement et distinctement que ce triangle est rectangle, sans que je sache que le carré de sa base soit égal au carré des côtés. Donc, au moins par la toute-puissance de Dieu, il se peut faire un triangle rectangle dont le carré de la base ne sera pas égal au carré des côtés. Je ne vois pas ce que l'on peut ici répondre, si ce n'est que cet homme ne connaît pas clairement et distinctement la nature du triangle rectangle. Mais d'où puis-je savoir que je connais mieux la nature de mon esprit qu'il ne connaît celle de ce triangle ? Car il est aussi assuré que le triangle au demi-cercle a un angle droit, ce qui est la notion du triangle rectangle, que je suis assuré que j'existe, de ce que je pense. Tout ainsi donc que celui-là se trompe de ce qu'il pense qu'il n'est pas de l'essence de ce triangle, qu'il connaît clairement et distinctement être rectangle, que le carré de sa base soit égal au carré des côtés, pourquoi peut-être ne me trompais-je pas aussi en ce que je pense que rien autre chose n'appartient à ma nature, que je sais certainement et distinctement être une chose qui pense, sinon que je suis une chose qui pense, vu que peut-être il est aussi de mon essence que je sois une chose étendue. Et certainement, dira quelqu'un, ce n'est pas merveille si, lorsque de ce que je pense, je viens à conclure que je suis, l'idée que de là je forme de moi-même ne me représente point autrement à mon esprit que comme une chose qui pense, puisqu'elle a été tirée de ma seule pensée. Et ainsi, il ne semble pas que cette idée nous puisse fournir aucun argument pour prouver que rien autre chose n'appartient à mon essence que ce qui est contenu en elle. On peut ajouter à cela que l'argument proposé semble prouver trop et nous porter dans cette opinion de quelques platoniciens, laquelle néanmoins notre auteur réfute, que rien de corporel n'appartient à notre essence, en sorte que l'homme soit seulement un esprit et que le corps n'en soit que le véhicule, d'où vient qu'ils définissent l'homme, un esprit vivant ou se servant du corps. Que si vous répondez que le corps n'est pas absolument exclu de mon essence, mais seulement en tant que précisément je suis une chose qui pense, on pourrait craindre que quelqu'un ne vînt à soupçonner que peut-être la notion ou l'idée que j'ai de moi-même, en tant que je suis une chose qui pense, ne soit pas l'idée ou la notion de quelque être complet, lequel soit pleinement et parfaitement conçu, mais seulement imparfaitement et avec quelque sorte d'abstraction d'esprit et restriction de la pensée. C'est pourquoi, tout ainsi que les géomètres conçoivent la ligne comme une longueur sans largeur, et la superficie comme une longueur et largeur sans profondeur, quoiqu'il n'y ait point de longueur sans largeur, ni de largeur sans profondeur, peut-être aussi quelqu'un pourra-t-il mettre en doute, savoir si tout ce qui pense n'est point aussi une chose étendue, mais qui, outre les propriétés qui lui sont communes avec les autres choses étendues, comme d'être mobile, figurable, etc., est aussi cette particulière vertu et faculté de penser, ce qui fait que, par une abstraction de l'esprit, elle peut être conçue, avec cette seule vertu, comme une chose qui pense, quoique, en effet, les propriétés et qualités du corps conviennent à toutes les choses qui pensent, tout ainsi que la qualité peut être conçue avec la longueur seule, quoique, en effet, il n'y ait point de quantité à laquelle, avec la longueur, la largeur et la profondeur ne conviennent. Ce qui augmente cette difficulté est que cette vertu de pensée semble être attachée aux organes corporels, puisque dans les enfants elle paraît assoupie, et dans les fous tout à fait éteinte et perdue, ce que les personnes impies et meurtrières des âmes nous objectent principalement. Voilà ce que j'avais à dire touchant la distinction réelle de l'esprit d'avec le corps. Mais puisque M. Descartes a entrepris de démontrer l'immortalité de l'âme, on peut demander avec raison si elle résulte évidemment de cette distinction. Car selon les principes de la philosophie ordinaire, cela ne s'ensuit point du tout. Vu qu'ordinairement, ils disent que les âmes des bêtes sont distinctes de leur corps, et que néanmoins, elles périssent avec eux. J'avais étendu jusqu'ici cet écrit, et mon dessein était de montrer comment, selon les principes de notre auteur, lesquels je pensais avoir recueillis de sa façon de philosopher, de la réelle distinction de l'esprit d'avec le corps, son immortalité se conclut facilement lorsqu'on m'a mis entre les mains un sommaire des 6 méditations fait par le même auteur qui, outre la grande lumière qu'il apporte à tout son ouvrage, contenait sur ce sujet les mêmes raisons que j'avais méditées pour la solution de cette question. Pour ce qui est des âmes des bêtes, il a déjà assez fait connaître, en d'autres lieux, que son opinion est qu'elles n'en ont point. Mais seulement un corps figuré d'une certaine façon est composé de plusieurs différents organes disposés de telle sorte que toutes les opérations que nous voyons peuvent être faites en lui et par lui. Mais il y a lieu de craindre que cette opinion ne puisse pas trouver créance dans les esprits des hommes si elle n'est soutenue et prouvée par de très fortes raisons. Car cela semble incroyable d'abord qu'il se puisse faire, sans le ministère d'aucune âme, que la lumière qui réfléchit du corps du loup dans les yeux de la brebis remue les petits filets des nerfs optiques, et qu'en vertu de ce mouvement qui va jusqu'au cerveau, les esprits animaux soient répandus dans les nerfs en la manière qu'il est nécessaire pour faire que la brebis prenne la fuite. J'ajouterai seulement ici que j'approuve grandement ce que M. Descartes dit touchant la distinction qui est entre l'imagination et la pensée ou l'intelligence, et que cela a toujours été mon opinion, que les choses que nous concevons par la raison sont beaucoup plus certaines que celles que les sens corporels nous font apercevoir. Car il y a longtemps que j'ai appris de saint Augustin, chapitre 15 de la Quantité de l'âme, qu'il faut rejeter le sentiment de ceux qui se persuadent que les choses que nous voyons par l'esprit sont moins certaines que celles que nous voyons par les yeux du corps, qui sont toujours troublées par la pituite. Ce qui fait dire au même saint Augustin, dans le livre premier de ses soliloques, chapitre 4, qu'il a expérimenté plusieurs fois qu'en matière de géométrie, les sens sont comme des vaisseaux. Car, dit-il, lorsque, pour l'établissement et la preuve de quelques propositions de géométrie, je me suis laissé conduire par mes sens jusqu'au lieu où je prétendais aller, je ne les ai pas plutôt quittés que, venant à repasser par ma pensée toutes les choses qu'il semblait m'avoir apprises, je me suis trouvé l'esprit aussi inconstant que sont les pas de ceux que l'on vient de mettre à terre après une longue navigation. C'est pourquoi je pense qu'on pourrait plutôt trouver l'art de naviguer sur la terre que de pouvoir comprendre la géométrie par la seule entremise des sens, quoiqu'il semble qu'il n'aide pas peu ceux qui commencent à l'apprendre. De Dieu. La première raison que notre auteur apporte pour démontrer l'existence de Dieu, laquelle il a entrepris de prouver dans sa troisième méditation, contient deux parties. La première est que Dieu existe, parce que son idée est en moi, et la seconde, que moi qui ai une telle idée, je ne puis venir que de Dieu. Touchant la première partie, il n'y a qu'une seule chose que je ne puis approuver, qui est que, M. Descartes ayant soutenu que la fausseté ne se trouve proprement que dans les jugements, il dit néanmoins, un peu après, qu'il y a des idées qui peuvent, non pas à la vérité formellement, mais matériellement, être fausses, ce qui me semble avoir de la répugnance avec ces principes. Mais, de peur qu'en une matière si obscure, je ne puisse pas expliquer ma pensée assez nettement, je me servirai d'un exemple qui la rendra plus manifeste. Si, dit-il, le froid est seulement une privation de la chaleur, l'idée qui me le représente comme une chose positive sera matériellement fausse. Au contraire, si le froid est seulement une privation, il ne pourra y avoir aucune idée du froid qui me le représente comme une chose positive, et ici, notre auteur confond le jugement avec l'idée. Car qu'est-ce que l'idée du froid ? C'est le froid même, en tant qu'il est objectivement dans l'entendement. Mais si le froid est une privation, il ne saurait être objectivement dans l'entendement par une idée de qui l'être objectif soit un être positif. Donc, si le froid est seulement une privation, jamais l'idée n'en pourra être positive, et conséquemment, il n'y en pourra avoir aucune qui soit matériellement fausse. Cela se confirme par le même argument que M. Descartes emploie pour prouver que l'idée d'un être infini est nécessairement vraie. Car bien que l'on puisse feindre qu'un tel être n'existe point, on ne peut pas, néanmoins, feindre que son idée ne me représente rien de réel. La même chose se peut dire de toute idée positive, car, encore que l'on puisse feindre que le froid, que je pense être représenté par une idée positive, ne soit pas une chose positive, on ne peut pas néanmoins feindre qu'une idée positive ne me représente rien de réel et de positif, vu que les idées ne sont pas appelées positives selon l'être, qu'elles ont en qualité de mode ou de manière de penser. Car en ce sens, elles seraient toutes positives, mais elles sont ainsi appelées de l'être objectif qu'elles contiennent et représentent à notre esprit. Partant, cette idée peut bien être pas l'idée du froid, mais elle ne peut pas être fausse. Mais, direz-vous, elle est fausse pour cela même qu'elle n'est pas l'idée du froid. Au contraire, c'est votre jugement qui est faux, si vous la jugez être l'idée du froid, mais pour elle, il est certain qu'elle est très vraie, tout ainsi que l'idée de Dieu ne doit pas matériellement même être appelée fausse, encore que quelqu'un la puisse transférer et rapporter à une chose qui ne soit point Dieu, comme ont fait les idolâtres. Enfin, cette idée du froid, que vous dites être matériellement fausse, que représente-t-elle à votre esprit ? Une privation ? Donc elle est vraie. Un être positif ? Donc elle n'est pas l'idée du froid. Et de plus, quelle est la cause de cet être positif objectif qui, selon votre opinion, fait que cette idée soit matériellement fausse ? C'est, dites-vous, moi-même, en tant que je participe du néant. Donc, l'être objectif positif de quelque idée peut venir du néant, ce qui néanmoins répugne tout à fait à vos premiers fondements. Mais venons à la seconde partie de cette démonstration, en laquelle on demande si moi, qui ai l'idée d'un être infini, je puis être par un autre que par un être infini, et principalement, si je puis être par moi-même. M. Descartes soutient que je ne puis être par moi-même, d'autant que si je me donnais l'être, je me donnerais aussi toutes les perfections dont je trouve en moi quelque idée. Mais l'auteur des premières objections réplique fort subtilement « Être par soi ne doit pas être pris positivement, mais négativement, en sorte que ce soit le même que n'être pas par autrui. » Or, ajoute-t-il, si quelque chose est par soi, c'est-à-dire non par autrui, comment prouverez-vous pour cela qu'elle comprend tout et qu'elle est infinie ? Car à présent, je ne vous écoute point, si vous dites « Puisqu'elle est par soi, elle se sera aisément donnée toute chose, d'autant qu'elle n'est pas par soi comme par une cause, et qu'il ne lui a pas été possible, avant qu'elle fût, de prévoir ce qu'elle pourrait être, pour choisir ce qu'elle serait après. » Pour résoudre cet argument, M. Descartes répond que cette façon de parler, être par soi, ne doit pas être prise négativement mais positivement, eu égard même à l'existence de Dieu, en telle sorte que Dieu fait en quelque sorte la même chose à l'égard de soi-même que la cause efficiente à l'égard de son effet. Ce qui me semble un peu hardi est n'être pas véritable. C'est pourquoi je conviens en partie avec lui, et en partie je n'y conviens pas. Car j'avoue bien que je ne puis être par moi-même que positivement, mais je nie que le même se doive dire de Dieu. Au contraire, je trouve une manifeste contradiction que quelque chose soit par soi positivement et comme par une cause. C'est pourquoi je conclus la même chose que notre auteur, mais par une voie tout à fait différente en cette sorte. Pour être par moi-même, je devrais être par moi-même positivement et comme par une cause, donc il est impossible que je sois par moi-même. La majeure de cet argument est prouvée par ce qu'il dit lui-même, que les parties du temps pouvant être séparées et ne dépendant point les unes des autres, il ne s'ensuit pas, de ce que je suis, que je doive être encore à l'avenir, si ce n'est qu'il y ait en moi quelque puissance réelle et positive qui me crée quasi d'air-chef en tous les moments. Quant à la mineure, à savoir que je ne puis être par moi positivement et comme par une cause, elle me semble si manifeste par la lumière naturelle que ce serait en vain qu'on s'arrêterait à la vouloir prouver, puisque ce serait perdre le temps à prouver une chose connue par une autre moins connue. Notre auteur même semble en avoir reconnu la vérité lorsqu'il n'a pas osé la nier ouvertement. Car je vous prie, examinons soigneusement ces paroles de sa réponse aux premières objections. Je n'ai pas dit, dit-il, qu'il est impossible qu'une chose soit la cause efficiente de soi-même, car encore que cela soit manifestement véritable, quand on restreint la signification d'efficient à ces sortes de causes qui sont différentes de leurs effets, ou qui les précèdent en temps, il ne semble pas néanmoins que dans cette question, on la doive aussi restreindre, parce que la lumière naturelle ne nous dicte point que ce soit le propre de la cause efficiente de précéder en temps son effet. Cela est fort pour ce qui regarde le premier membre de cette distinction. Mais pourquoi a-t-il omis le second, et que n'a-t-il ajouté que la même lumière naturelle ne nous dicte point que ce soit le propre de la cause efficiente d'être différente de son effet, sinon parce que la lumière naturelle ne lui permettait pas de le dire? Et de vrai, tout effet étant dépendant de sa cause et recevant d'elle son être, n'est-il pas très évident qu'une même chose ne peut pas dépendre ni recevoir l'être de soi-même? Davantage, toute cause est la cause d'un effet, et tout effet est l'effet d'une cause, et partant, il y a un rapport mutuel entre la cause et l'effet, or, il ne peut y avoir de rapport mutuel qu'entre deux choses. En après, on ne peut concevoir sans absurdité qu'une chose reçoive l'être, et que néanmoins cette même chose ait l'être auparavant que nous ayons conçu qu'elle l'ait reçue. Or cela arriverait si nous attribuions les notions de cause et d'effet à une même chose au regard de soi-même. Car quelle est la notion d'une cause? Donner l'être. Quelle est la notion d'un effet? Le recevoir. Or la notion de la cause précède naturellement la notion de l'effet. Maintenant, nous ne pouvons pas concevoir une chose sans la notion de cause, comme donnant l'être, si nous ne concevons qu'elle l'a. Car personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Donc nous concevrions premièrement qu'une chose a l'être, que nous ne concevrions qu'elle l'a reçue. Et néanmoins, en celui qui reçoit, recevoir précède l'avoir. Cette raison peut être encore ainsi expliquée. Personne ne donne ce qu'il n'a pas, donc personne ne se peut donner l'être que celui qui l'a déjà. Or, s'il l'a déjà, pourquoi se le donnerait-il? Enfin, il dit qu'il est manifeste, par la lumière naturelle, que la création n'est distinguée de la conservation que par la raison. Mais il est aussi manifeste, par la même lumière naturelle, que rien ne se peut créer soi-même, ni par conséquent aussi se conserver. Que si de la thèse générale nous descendons à l'hypothèse spéciale de Dieu, la chose sera encore, à mon avis, plus manifeste, à savoir que Dieu ne peut être par soi positivement mais seulement négativement, c'est-à-dire non par autrui. Et premièrement, cela est évident par la raison que M. Descartes apporte pour prouver que, si le corps est par soi, il doit être par soi positivement. Car, dit-il, les parties du temps ne dépendent point les unes des autres, et partant, de ce que l'on suppose que ce corps jusqu'à cette heure a été par soi, c'est-à-dire sans cause, il ne s'ensuit pas pour cela qu'ils doivent être encore à l'avenir, si ce n'est qu'il y ait en lui quelque puissance réelle et positive qui, pour ainsi dire, le reproduise continuellement. Mais tant s'en faut que cette raison puisse avoir lieu, lorsqu'il est question d'un être souverainement parfait et infini, qu'au contraire, pour des raisons tout à fait opposées, il faut conclure tout autrement. Car, dans l'idée d'un être infini, l'infinité de sa durée y est aussi contenue, c'est-à-dire qu'elle n'est point renfermée dans aucune limite, et partant, qu'elle est indivisible, permanente et subsistante tout à la fois, et dans laquelle on ne peut sans erreur et qu'improprement, à cause de l'imperfection de notre esprit, concevoir de passé ni d'avenir. D'où il est manifeste qu'on ne peut concevoir qu'un être infini existe, quand ce ne serait qu'un moment, qu'on ne conçoive en même temps qu'il a toujours été et qu'il sera éternellement. Ce que notre auteur même dit en quelque endroit, et partant, que c'est une chose superflue de demander pourquoi il persévère dans l'être. Voir même, comme l'enseigne saint Augustin, lequel, après les auteurs sacrés, a parlé de Dieu plus hautement et plus dignement qu'aucun autre, en Dieu, il n'y a point de passé ni de futur, mais un continuel présent. Ce qui fait voir clairement qu'on ne peut sans absurdité demander pourquoi Dieu persévère dans l'être, vu que cette question enveloppe manifestement le devant et l'après, le passé et le futur, qui doivent être bannis de l'idée d'un être infini. Davantage, on ne peut pas concevoir que Dieu soit par soi positivement, comme s'il était lui-même premièrement produit, car il aurait été auparavant que d'être, mais seulement, comme notre auteur déclare en plusieurs lieux, parce que, en effet, il se conserve. Mais la conservation ne convient pas mieux à l'être infini que la première production. Car qu'est-ce, je vous prie, que la conservation, sinon une continuelle reproduction d'une chose ? D'où il arrive que toute conservation suppose une première production. Et c'est pour cela même que le nom de continuation, comme aussi celui de conservation, étant plutôt des noms de puissance que d'actes, emportent avec soi quelques capacités ou dispositions à recevoir, mais l'être infini est un acte très pur, incapable de telles dispositions. Concluons donc que nous ne pouvons concevoir que Dieu soit par soi positivement, sinon à cause de l'imperfection de notre esprit, qui conçoit Dieu à la façon des choses créées, ce qui sera encore plus évident par cette autre raison. On ne demande point la cause efficiente d'une chose, sinon à raison de son existence, et non à raison de son essence. Par exemple, quand on demande la cause efficiente d'un triangle, on demande qui a fait que ce triangle soit au monde, mais ce ne serait pas sans absurdité que je demanderais la cause efficiente pourquoi un triangle a ses trois angles égaux à deux droits. Et à celui qui ferait cette demande, on ne répondrait pas bien par la cause efficiente, mais on doit seulement répondre parce que telle est la nature du triangle. D'où vient que les mathématiques, qui ne se mettent pas beaucoup en peine de l'existence de leur objet, ne font aucune démonstration par la cause efficiente et finale. Or, il n'est pas moins de l'essence d'un être infini d'exister, voire même, si vous voulez, de persévérer dans l'être, qu'il est de l'essence d'un triangle d'avoir ses trois angles égaux à deux droits. Donc, tout ainsi qu'à celui qui demanderait pourquoi un triangle a ses trois angles égaux à deux droits, on ne doit pas répondre par la cause efficiente, mais seulement parce que telle est la nature immuable et éternelle du triangle. De même, si quelqu'un demande pourquoi Dieu est, ou pourquoi il ne cesse point d'être, il ne faut point chercher en Dieu, ni hors de Dieu, de cause efficiente ou quasi-efficiente, car je ne dispute pas ici du nom, mais de la chose. Mais il faut dire, pour toute raison, parce que telle est la nature de l'être souverainement parfait. C'est pourquoi, à ce que dit M. Descartes, que la lumière naturelle nous dicte qu'il n'y a aucune chose de laquelle il ne soit permis de demander pourquoi elle existe, ou dont on ne puisse rechercher la cause efficiente, ou bien, si elle n'en a point, demander pourquoi elle n'en a pas besoin. Je réponds que si on demande pourquoi Dieu existe, il ne faut pas répondre par la cause efficiente, mais seulement parce qu'il est Dieu, c'est-à-dire un être infini. que si on demande quelle est sa cause efficiente, il faut répondre qu'il n'en a pas besoin, et enfin, si on demande pourquoi il n'en a pas besoin, il faut répondre parce qu'il est un être infini, duquel l'existence est son essence, car il n'y a que les choses dans lesquelles il est permis de distinguer l'existence actuelle de l'essence, qui ait besoin de cause efficiente. Et partant, ce qu'il ajoute immédiatement après les paroles que je viens de citer, se détruit de soi-même, à savoir « Si je pensais, dit-il, qu'aucune chose ne pût en quelque façon être, à l'égard de soi-même, ce que la cause efficiente est à l'égard de son effet, tant s'en faut que de là je voulusse conclure qu'il y a une première cause, qu'au contraire de celle-là même qu'on appellerait première, je rechercherai derechef la cause, et ainsi je ne viendrai jamais à une première. Car au contraire, si je pensais que de quelque chose que ce fût, il fallut rechercher la cause efficiente, ou quasi efficiente, j'aurais dans l'esprit de chercher une cause différente de cette chose, d'autant qu'il est manifeste que rien ne peut en aucune façon être à l'égard de soi-même ce que la cause efficiente est à l'égard de son effet. Or, il me semble que notre auteur doit être averti de considérer diligemment et avec attention toutes ces choses, parce que je suis assuré qu'il y a peu de théologiens qui ne s'offensent de cette proposition, à savoir que Dieu est par soi positivement et comme par une cause. Il ne me reste plus qu'un scrupule, qui est de savoir comment il se peut défendre de ne pas commettre un cercle lorsqu'il dit que nous ne sommes assurés que les choses que nous concevons clairement et distinctement sont vraies qu'à cause que Dieu est ou existe. Car nous ne pouvons être assurés que Dieu est, sinon parce que nous concevons cela très clairement et très distinctement. Donc, auparavant que d'être assurés de l'existence de Dieu, nous devons être assurés que toutes les choses que nous concevons clairement et distinctement sont toutes vraies. J'ajouterai une chose qui m'était échappée, c'est à savoir que cette proposition me semble fausse, que M. Descartes donne pour une vérité très constante, à savoir que rien ne peut être en lui, en tant qu'il est une chose qui pense, dont il n'ait connaissance. Car par ce mot, en lui, en tant qu'il est une chose qui pense, il n'entend autre chose que son esprit, en tant qu'il est distingué du corps. Mais qui ne voit qu'il peut y avoir plusieurs choses en l'esprit, dont l'esprit même n'est aucune connaissance? Par exemple, l'esprit d'un enfant qui est dans le ventre de sa mère a bien la vertu ou la faculté de penser, mais il n'en a pas connaissance. Je passe sous silence un grand nombre de semblables choses. Des choses qui peuvent arrêter les théologiens. Enfin, pour finir un discours qui n'est déjà que trop ennuyeux, je veux ici traiter les choses le plus brièvement qu'il me sera possible, et à ce sujet, mon dessein est de marquer seulement les difficultés, sans m'arrêter à une dispute plus exacte. Premièrement, je crains que quelques-uns ne s'offensent de cette libre façon de philosopher, par laquelle toutes choses sont révoquées en doute. Et de vrai, notre auteur même confesse dans sa méthode que cette voie est dangereuse pour les faibles esprits. J'avoue néanmoins qu'il tempère un peu le sujet de cette crainte dans l'abrégé de sa première méditation. Toutefois, je ne sais s'il ne serait point à propos de la menir de quelque préface dans laquelle le lecteur fut averti que ce n'est pas sérieusement et tout de bon que l'on doute de ces choses, mais afin qu'ayant pour quelque temps mis à part toutes celles qui peuvent donner le moindre doute, ou, comme parle notre auteur en un autre endroit, qui peuvent donner à notre esprit une occasion de douter, la plus hyperbolique, nous voyons si, après cela, il n'y aura pas moyen de trouver quelque vérité qui soit si ferme et si assurée que les plus opiniâtres n'en puissent aucunement douter. Et aussi, au lieu de ces paroles, ne connaissant pas l'auteur de mon origine, je penserais qu'il vaudrait mieux mettre « feignant de ne pas connaître ». Dans la quatrième méditation, qui traite du vrai et du faux, je voudrais, pour plusieurs raisons qu'il serait long de rapporter ici, que M. Descartes, dans son abrégé, ou dans le tissu même de cette méditation, avertit le lecteur de deux choses. La première, que lorsqu'il explique la cause de l'erreur, il entend principalement parler de celle qui se commet dans le discernement du vrai et du faux, et non pas de celle qui arrive dans la poursuite du bien et du mal. Car, puisque cela suffit pour le dessein et le but de notre auteur, et que les choses qu'il dit ici touchant la cause de l'erreur souffriraient de très grandes objections, si on les étendait aussi à ce qui regarde la poursuite du bien et du mal, il me semble qu'il est de la prudence et que l'ordre même dont notre auteur paraît si jaloux requiert que toutes les choses qui ne servent point au sujet et qui peuvent donner lieu à plusieurs disputes soient retranchées, de peur que, tandis que le lecteur s'amuse inutilement à disputer des choses qui sont superflues, il ne soit diverti de la connaissance des nécessaires. La seconde chose dont je voudrais que notre auteur donnât quelque avertissement est que, lorsqu'il dit que nous ne devons donner notre créance qu'aux choses que nous concevons clairement et distinctement, cela s'entend seulement des choses qui concernent les sciences et qui tombent sous notre intelligence et non pas de celles qui regardent la foi et les actions de notre vie. Ce qui a fait qu'il a toujours condamné l'arrogance et présomption de ceux qui opinent, c'est-à-dire de ceux qui pensent savoir ce qu'ils ne savent pas, mais qu'il n'a jamais blâmé la juste persuasion de ceux qui croient avec prudence. Car comme remarque fort judicieusement saint Augustin, au chapitre 15 de l'utilité de la croyance, il y a trois choses en l'esprit de l'homme qui ont entre elles un très grand rapport et semblent quasi n'être qu'une même chose, mais qu'il faut néanmoins très soigneusement distinguer, savoir et entendre, croire et opiner. Celui-là entend, qui comprend quelque chose par des raisons certaines. Celui-là croit, lequel, emporté par le poids et le crédit de quelque grave et puissante autorité, tient pour vrai cela même qu'il ne comprend pas par des raisons certaines. Celui-là opine, qui se persuade, ou plutôt, qui présume de savoir ce qu'il ne sait pas. Or, c'est une chose honteuse et fort indigne d'un homme que d'opiner, pour deux raisons. La première, parce que celui-là n'est plus en état d'apprendre, qui s'est déjà persuadé de savoir ce qu'il ignore, et la seconde, parce que la présomption est de soi la marque d'un esprit mal fait et d'un homme de peu de sens. Donc, ce que nous entendons, nous le devons à la raison. Ce que nous croyons, à l'autorité, ce que nous opinons, à l'erreur. Je dis cela afin que nous sachions qu'ajoutant foi même aux choses que nous ne comprenons pas encore, nous sommes exempts de la présomption de ceux qui opinent. Car ceux qui disent qu'il ne faut rien croire que ce que nous savons, tâchent seulement de ne point tomber dans la faute de ceux qui opinent, laquelle en effet est de soi honteuse et blâmable. Mais si quelqu'un considère avec soin la grande différence qu'il y a entre celui qui présume savoir ce qu'il ne sait pas et celui qui croit ce qu'il sait bien qu'il n'entend pas, y étant toutefois porté par quelque puissante autorité, il verra que celui-ci évite sagement le péril de l'erreur, le blâme de peu de confiance et d'humanité, et le péché de superbe. Et au chapitre 12, il ajoute « On peut apporter plusieurs raisons qui feront voir qu'il ne reste plus rien d'assuré parmi la société des hommes si nous sommes résolus de ne rien croire que ce que nous pourrons connaître certainement. » Jusqu'ici, saint Augustin. Monsieur Descartes peut maintenant juger combien il est nécessaire de distinguer ces choses, de peur que plusieurs de ceux qui penchent aujourd'hui vers l'impiété ne puissent se servir de ces paroles pour combattre la foi et la vérité de notre créance. Mais ce dont je prévois que les théologiens s'offenseront le plus est que, selon ces principes, il ne semble pas que les choses que l'Église nous enseigne touchant le sacré mystère de l'Eucharistie puissent subsister et demeurer en leur entier. Car nous tenons pour article de foi que la substance du pain étant ôtée du pain eucharistique, les seuls accidents y demeurent. Or, ces accidents sont l'étendue, la figure, la couleur, l'odeur, la saveur et les autres qualités sensibles. De qualités sensibles, notre auteur n'en reconnaît point, mais seulement certains différents mouvements des petits corps qui sont autour de nous, par le moyen duquel nous sentons ces différentes impressions, lesquelles, puis après, nous appelons du nom de couleur, de saveur, d'odeur, etc. Ainsi, il reste seulement la figure, l'étendue et la mobilité. Mais notre auteur nie que ces facultés puissent être entendues sans quelque substance en laquelle elles résident, et partant aussi, qu'elles puissent exister sans elles, ce que même il répète dans ses réponses aux premières objections. Il ne reconnaît point aussi, entre ces modes ou affections de la substance et la substance, ce semble pour que les choses qui sont ainsi distinguées puissent être séparées l'une de l'autre, même par la toute-puissance de Dieu. Je ne doute point que M. Descartes, dont la piété nous est très connue, n'examine et ne pèse diligemment ces choses, et qu'il ne juge bien qu'il lui faut soigneusement prendre garde, qu'en tâchant de soutenir la cause de Dieu contre l'impiété des libertins, il ne semble pas leur avoir mis des armes en main pour combattre une foi que l'autorité du Dieu qu'il défend a fondée, et au moyen de laquelle il espère parvenir à cette vie immortelle qu'il a entrepris de persuader aux hommes.